Écoute dans la nuit. Chantal Mali, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychothérapeute et formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il propose des parcours adaptés aux situations de chacun. Et donc cela à travers des parcours différents, adaptés à chacun. Et cela au sein de l'Institut de formation psychrétien. Donc une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres. Et cela dans la perspective d'être plus disponible à accueillir l'action de Dieu dans notre vie. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors notre sujet de réflexion et de partage ce soir, faut-il voir des pervers partout ? Alors bon, c'est ce que nous allons parler ce soir, donc de perversion morale, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, de perversion morale.
Pas sexuelle.
Pas sexuelle,
oui.
Ce qu'on appelle la perversion narcissique,
oui.
En langage psychologique, qui est un peu passé dans le monde ordinaire à travers les différents livres,
oui.
Ou articles qui sont parus dessus. Alors, morale et narcissique, on va expliquer pourquoi.
Oui.
Pour parler de ce sujet, je me suis référé à un livre qui s'appelle Le génie des origines de Paul-Claude Racamier.
Oui.
Alors, je le cite en entrée parce qu'il est partout présent et je ne vais pas le
oui,
citer.
Oui, le citer chaque fois. Donc, c'est là vraiment
donc
la référence
c'est,
qui.
C'est vraiment une référence par rapport à la perversion narcissique.
Mm-hmm. Alors, la perversion, la façon dont il l'a présenté. Ce Paul-Claude Racamier, donc.
Voilà, il en a présenté en fait tous les mécanismes. Donc, où est-ce que ça s'enracine, c'est ce qu'on va regarder, comment ça se passe. Il a beaucoup comparé perversion, paranoïa, perversion, psychose. On va voir un peu, on va éclaircir tout ça. C'est un peu du langage très technique, ce livre. Mais on va mettre ça un peu plus accessible.
C'est accessible. Alors, la perversion, déjà, pourquoi ce titre, hein, faut-il voir des pervers partout?
Alors, le titre que j'aurais dû choisir, ça aurait dû être la perversion narcissique.
Oui.
Alors, j'ai pris ce titre, c'est un peu provocateur, mais c'est aussi pour faire amener les auditeurs à réfléchir, parce que à chaque fois qu'il y a un ouvrage qui sort sur la perversion narcissique, et il y en a un par an à peu près, ou qu'un journal publie un article, et ça c'est pareil, c'est tous les ans, tous les 6 mois, il y a un article dessus. J'ai constaté, soit dans mon cabinet, soit d'une façon plus générale dans la vie courante,
oui.
Que d'un seul coup, les gens étaient entourés de pervers narcissiques.
D'accord.
Alors, quand il y a un article qui sort dans un hebdomadaire ou un mensuel, dans la semaine, j'ai 5-10 personnes qui me disent mon conjoint est pervers, mon patron est pervers, mon collègue est pervers.
Ils voient des pervers partout.
Voilà.
Mais alors, donc c'est tout d'un coup comme ça, et même si vous n'avez pas lu les articles, vous savez par ce qui afflue dans votre...
un article. Je sais qu'il y a eu un article sur le sujet. Alors, en même temps, c'est pas sans poser de problème, mais avec le relationnel avec le conjoint, le patron ou le collègue.
Bah oui, c'est ça, parce que si on voit. Mais pourquoi, ça c'est une aparté, pourquoi justement, d'une façon assez récurrente dans les journaux, on voit, ça ressort de temps en temps, on voit un dossier là-dessus.
Je pense que ça se vend. Alors, il faut reconnaître qu'il y a plus en plus de pression au travail, par exemple. Il y a beaucoup d'agressivité aussi dans notre société. Et donc, c'est pas la même chose, hein, la pression, l'agressivité. Mais les gens le vivent mal et oui. Sûrement que c'est un sujet vendeur, en fait.
C'est ça. Hein.
Du coup, il y a régulièrement des articles. Et puis, en même temps, c'est quelque chose qui existe. Mmh. Et donc, les journaux essayent de prévenir.
Oui, aussi.
Aussi. Donc, il y a un côté information, puis un côté vendeur.
Voilà. D'accord. Mais vous, ça, en tout cas, ça marche parce que dans votre cabinet, tout d'un coup, il y a des révélations.
Ça marche mal, finalement, parce que comme dans un article, sûrement on peut pas tout dire. Mmh. Du coup, les gens, c'est un peu le syndrome de l'étudiant en médecine, quoi, qu'ils voient toutes les maladies. Mmh. Là, les gens, c'est pareil, ils reconnaissent des pervers un peu partout, quoi.
Voilà, donc, c'est ça, ils voient ça partout. C'est passé dans le langage courant, justement, pervers. C'est un terme que, à tout bout de champ, on peut dire ça, dans le langage populaire, mais en psychologie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de précis.
En psychologie, c'est quelque chose de très précis, on va regarder ce que c'est, qui, bien souvent, n'a rien à voir avec le langage courant. Quand on dit c'est un pervers, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on définit en psychologie. Mmh. Hein? En psychologie, oui. C'est vraiment précis.
C'est précis, oui.
Voilà, donc on va parler de perversion narcissique. Et on devrait d'ailleurs dire plutôt de mouvements pervers ou de mécanismes pervers.
Oui.
Parce que il s'agit pas d'une structure. Donc on emploie le terme pervers narcissique, on verra, mais normalement on devrait plutôt parler de mouvements, de mécanismes pervers.
Oui.
Parce que la perversion, c'est une défense. Alors on verra qu'est-ce que c'est qu'une défense. Mais parfois, c'est une défense qui est tellement organisée, et on pourrait presque dire tellement chronique chez la personne,
oui.
Qu'on parle alors de pervers narcissique.
D'accord. Alors, donc, nous allons parler de perversion narcissique.
On pourrait dire perversion morale aussi, puisque ça concerne plutôt... pas la morale au sens chrétien, mais ça concerne pas la sexualité. Hein. On parle ou de perversion sexuelle ou de perversion narcissique, autrement dit morale.
D'accord. Est-ce que tout le monde n'est pas concerné, évidemment. On ne peut pas avoir des pervers partout. Mais est-ce que... on a un peu de toutes les maladies, non, en soi, même si elles ne sont pas développées. Comment vous...
Oui, on pourrait dire que toute personne n'est pas sans trace de perversion narcissique.
Des traces.
Hein? Mais c'est vrai pour toutes les pathologies.
Oui, c'est ça.
On est tous un petit peu obsessionnels, on est tous un peu hystériques, on est tous un peu paranoïaques, on a tous ces traces-là parce que ça fait partie du développement normal de l'être humain de passer par toutes ces étapes-là.
C'est ça, on passe par... Et puis, évidemment, la croissance fait que...
On dépasse. Donc c'est quelque chose qui est universel. La différence, elle se situe non pas en termes qualitatifs, mais en termes quantitatifs. C'est-à-dire qu'on parle d'une pathologie quand il y a une quantité très importante chez une personne, d'un symptôme ou voilà.
La pathologie, c'est le développement.
Voilà, c'est la quantité. C'est la quantité. Alors, peut-être qu'on peut donner deux définitions de Paul Claude Racamier, d'ailleurs,
oui.
De la perversion narcissique. Alors la première, qui est assez simple, c'est une façon de se mettre à l'abri des conflits internes en se faisant valoir aux dépens de l'entourage.
Oui.
Donc une façon de se mettre à l'abri des conflits internes, donc ça dit bien que c'est une défense en se faisant valoir aux dépens de l'entourage. Et la deuxième définition, c'est une façon organisée de se défendre de toute douleur ou contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui, et non seulement sans peine, mais avec jouissance. Donc, voilà. En gros, la personne se défend d'une souffrance interne, d'un conflit interne, et elle va les expulser chez l'autre, ces conflits.
Elle projette,
on verra, tout en se survalorisant en même temps, grâce à ce processus, et ça aux dépens d'autrui, et en plus avec une jouissance.
Hein. Ah oui.
Voilà ce qu'est un pervers narcissique. Enfin, ce qu'est la perversion narcissique.
Alors,
On disait que y a des traces un peu chez tout le monde, et que la différence, c'est le quantitatif. On pourrait même dire que finalement, c'est un peu nécessaire pour la survie en société.
C'est-à-dire
Ça veut dire qu'il arrive à un certain nombre de personnes, alors de façon très occasionnelle, à chercher à se valoriser un petit peu au détriment des autres. Ça rejoint l'orgueil et la vanité, finalement. Hein? Mmh. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir. Peut-être la différence, elle va être s'il y a ou pas manipulation. Mais par exemple, quand on veut se faire embaucher, on peut se vanter. Ou quand une personne veut une promotion, elle va se survaloriser et parfois dévaloriser un peu le voisin pour avoir la promotion.
D'accord.
Donc, on est déjà dans un petit mécanisme un peu pervers.
Au lieu de simplement exposer
ses qualités.
Essayer de survaloriser en dévaluant l'autre.
Alors, mais normalement, on pourrait dire qu'une personne équilibrée ne va pas utiliser ce mode de fonctionnement. Mm-hmm. Hein? Si la personne est équilibrée, elle ne va pas utiliser ce mode de fonctionnement.
Non, évidemment.
Mais
oui.
On peut en trouver des traces comme ça, pas très fortes, un peu chez les gens.
Et quand c'est non pas une maladie déclarée, mais de façon ponctuelle dans une situation, on peut en prendre conscience et donc évoluer. Mais le pervers vraiment déclaré, si on peut dire...
Lui n'en a pas conscience.
Il n'a pas conscience.
En fait, il y a trois niveaux. Il y a le niveau des traces là, qu'on vient de décrire.
Oui.
Il y a un deuxième niveau où ça va être des phases ponctuelles.
Oui.
C'est-à-dire que dans certaines situations critique, très tendue, la personne va utiliser des mécanismes pervers.
Oui.
Par exemple, ça peut être en situation de conflit ou de crise.
Mmh.
Ça peut être lorsqu'une personne est en grande souffrance, quand elle est en deuil. Et là, ce sont en quelque sorte des phases qui servent de protection, de défense.
De défense, parce que c'est une défense, un mécanisme de défense, on le redit.
La plupart du temps, contre la dépression et parfois même contre un risque de psychose.
Ça peut être la personne se protège contre un risque de psychose.
C'est-à-dire que elle pourrait, pour certaines personnes.
Oui, oui.
Donc là, on est déjà dans la pathologie. En tout cas, dans des personnalités un peu limites. qui pourrait basculer quand il y a vraiment des événements graves, beaucoup de souffrance, voilà, mm-hmm. qui pourrait basculer dans la psychose ou dans un épisode oui. psychotique. Voilà, ils peuvent utiliser ce genre de mécanisme pour se protéger.
D'accord.
Ou d'autres qui risqueraient de basculer dans la dépression, ils peuvent utiliser ce mécanisme pour se protéger d'une façon ponctuelle.
D'accord.
Donc, on est dans la perversion narcissique. Ça ne veut pas dire que la personne est un pervers narcissique.
Oui,
simplement,
oui.
elle est en train de se défendre par rapport à une situation de crise.
D'accord. Merci, Pascal Parinet. Donc, ce soir, le thème que nous avons choisi, faut-il voir des pervers partout ? 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Nous écoutons tout de suite, c'est Benjamin Biolay qui chante Nuit Blanche.
Radio Notre-Dame.
C'était Benjamin Biolay, Nuit blanche. Ce soir, avec Pascal Parinet, nous parlons de la perversion narcissique. Perversion narcissique. Alors, on pose la question, faut-il voir des pervers partout? Vous donniez cette définition de Paul-Claude Racamier qui a bien cerné le sujet, on peut dire. En donnant deux définitions, on peut les redonner.
Voilà, la première, qui est la plus simple, c'est une façon de se mettre à l'abri des conflits internes. Alors, on parle de conflits psychologiques.
Hein. Oui.
En se faisant valoir aux dépens de l'entourage.
D'accord.
La deuxième, un peu plus compliquée, c'est une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne, de les expulser pour les faire couver ailleurs, donc chez une autre personne.
Donc en projetant.
Tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui, et non seulement sans peine, mais avec jouissance.
Voilà,
c'est-à-dire qu'il y a une jouissance dans le résultat produit et dans la survalorisation. Hein, c'est pour ça qu'on parle de perversion narcissique. Il y a deux termes. Il y a le premier terme, perversion, donc c'est une défense. Et le deuxième terme, narcissique, donc qui concerne la survalorisation de la personne qui utilise le mécanisme de défense.
D'accord. Alors, vous disiez que, il peut y avoir des traces.
Qui sont normales. On n'est pas exempt de traces, puisque toute pathologie est quelque chose à l'état de trace. D'universel. Et ce qui fait la différence avec la pathologie, c'est justement la quantité.
Alors, vous disiez aussi que dans certaines situations de conflit ou de crise, la personne peut mettre en avant ses mécanismes de défense pour se défendre.
Se protéger, notamment ou de la dépression, c'est la majorité des cas, ou quelques cas de la psychose, va utiliser ce mécanisme de protection. Mais déjà, on est dans la perversion narcissique.
D'accord.
Hein, mais qui est situationnel, en quelque sorte.
C'est ça. Et alors, il y en a des chroniques.
C'est le troisième. C'est quand ces mouvements pervers sont bien organisés, c'est-à-dire que les personnes fonctionnent sur ce mode relationnel, on parle de perversion narcissique, de pervers narcissique. Alors, on va retrouver là tous les escrocs. Tous les escrocs, finalement, ils se valorisent au détriment des autres. On reçoit un certain nombre de mails de donations, par exemple, sur Internet. ou de personnes qui séduisent pour soutirer de l'argent aux autres. Et puis, une fois qu'ils ont soutiré l'argent, ils laissent leur proie désemparée. Alors, il n'y a pas une valorisation directe, mais il y a un intérêt financier, il y a une manipulation. Et puis, souvent, elles vont se vanter d'avoir escroqué.
En plus,
donc, on est bien dans la perversion. Il y a les imposteurs aussi. Il y a eu un cas d'imposteur il n'y a pas très longtemps dans les journaux qui avait récupéré de l'argent à plein de vedettes. C'est pareil. Toutes les personnes ont été humiliées, finalement. Et lui, il s'est valorisé à avoir été le plus fort.
Mais c'est puéril, parce que, en plus de se vanter de cela, escroquer puis s'en vanter, il y a une inconscience, quelque part, en plus.
Oui, mais il y a toujours inconscience dans la perversion, mais l'objectif, c'est de se valoriser narcissiquement.
D'accord.
On va retrouver aussi tous les dictateurs, les tyrans qui rabaissent leur peuple pour assurer leur position.
Ah oui, aussi.
Voilà. Alors, leur position de chef d'État, mais surtout leur position narcissique, de dominer les autres. Et puis, y a tous les anonymes, et c'est de cela qu'on va parler ce soir, finalement.
Ceux qui sont dans l'ombre, voilà. Alors, et qui sont peut-être les plus dangereux, parce que ceux qu'on voit, les tyrans et tout cela, bon,
voilà,
ils asservissent les peuples, oui. Ils sont dangereux pour les masses, mais on les voit, on les reconnaît.
Ouais, ouais.
Mais ceux qui sont plus anonymes, les victimes,
voilà.
Il faut
les reconnaître.
Oui. Alors, est-ce qu'il existe plusieurs types de perversion narcissique ?
Oui, alors il y a deux types. Le premier type est plutôt agressif et haineux. Donc, c'est un type qui est assez proche de la paranoïa, finalement, et qui vise à éviter la dépression. C'est-à-dire, la personne est un peu coincée, on verra un peu plus loin la source, entre la psychose et la dépression. C'est assez proche de la paranoïa et ça cherche à éviter la dépression. Donc souvent, ce sont des personnes plutôt froides, rigides. C'est un type qui est dans l'ombre. Il va manipuler d'autres personnes qui vont agir pour lui et il va assouvir sa haine sur le dos des autres. Il va s'allier par exemple pour comploter en secret, laissant tous les autres prendre les risques finalement.
D'accord.
Mais il y a quand même, alors parfois c'est difficile de savoir qui est qui là-dedans quand ça complote à plusieurs, mais il y a quand même une survalorisation toujours narcissique, mm-hmm. et puis qui se fait au détriment des autres.
Voilà. Alors, ça, c'est le premier type.
Le premier type. Le deuxième type, lui, il est plus narcissique. Ça veut dire qu'il va se montrer plus, il va être plus dans la séduction. Il cherchera plus à s'affirmer en tant que personnalité, à se faire valoir. Mais en même temps, il va utiliser pour ça la dévalorisation des autres. Ça veut dire qu'il y aura le mouvement de séduction qui sera suivi de la dévalorisation.
Ah, il y a les deux opposés quelque part.
Ouais,
oui.
Ouais.
C'est une façon de reconnaître.
Voilà. C'est toujours, de toute façon, en lien avec la séduction narcissique.
Mais pas dans le premier type.
Dans le premier type aussi. Simplement, il y a beaucoup plus de haine, c'est plus froid, il y a plus de haine, mais il y a quand même la séduction narcissique qui joue un rôle. Et notamment sur la valorisation.
D'accord. Alors, donc, c'est toujours la séduction narcissique. Hein,
voilà, c'est toujours en lien, en tout cas en lien, en fond, il y a la séduction narcissique qui est présente.
Mais alors, d'où cela vient-il ?
Alors, on pourrait dire que ça vient de la mégalomanie infantile. Et quand la séduction narcissisme s'allie avec ce qu'on appelle l'auto-érotisme, donc c'est avant l'Œdipe, tous les stades de l'enfance avant l'Œdipe,
oui.
À ce moment-là, ça donne des perversions.
C'est-à-dire vers quel âge ? Avant 3 ans ?
Avant 4 ans,
avant
oui.
4 ans.
Mais là, on est vraiment entre... on est dans la petite enfance, autour des 1 an. 8 mois, 1 an. Enfin, on va dire entre 6 et 6 mois et 1 an et demi. Quoi.
Oui, parce que le petit est tout puissant, est dans la toute puissance.
Voilà. On est dans cette période-là. Et en fond, derrière tout ça, il y a une illusion de remplacer le père auprès de la mère, mais pas comme dans l'Œdipe. C'est-à-dire que là, le père est évincé en pensée. C'est comme si le père n'existait pas.
Oui. Tandis que dans l'Œdipe, le père est évincé.
Oui, mais il a une existence. Il est reconnu.
Il est reconnu, tandis que là, il n'est pas reconnu.
Il est évincé de la pensée. Et avec l'évacuation du père, finalement, il y a un évitement de l'Œdipe.
Ah oui, on ne passe pas au stade suivant.
Non, parce que le père n'existe pas dans la pensée de l'enfant, peut-être parfois pas non plus dans la pensée de la mère. Et du coup, avec cet évitement de l'Œdipe, ça donne un manque de conscience morale. Qui fait que y a pas vraiment la notion du bien et du mal par rapport au comportement défensif.
D'accord. Hein?
Et puis la séduction narcissique va permettre de pas ressentir les conflits internes, puisque la personne est dans la séduction. Donc dans la séduction, il n'y a pas de conflit. Mais en même temps, elle empêche cet accès à l'altérité et donc à l'Œdipe.
Ah oui.
Et ce qui fait qu'on va retrouver dans la perversion narcissique un mélange d'emprise, de sadisme et de toute-puissance. Donc on va retrouver ces trois points-là. La toute-puissance narcissique,
du petit enfant
qui se croit tout-puissant. Avec la toute-puissance, il y a l'emprise qui va avec.
Et
le sadisme aussi. Il y a une dimension sadique.
Jouissance.
Dans la jouissance, avoir l'autre souffrir ou parfois même être détruit. Donc il y a la jouissance du sadisme. Et le narcissisme fait que l'individu ne veut rien devoir à personne. Donc ça, c'est l'aspect narcissique. Il est tout puissant, il est autosuffisant, on va dire. Et la perversion, qu'il rabaisse les autres pour rester dans cette illusion narcissique. Puisque c'est une illusion.
Mais oui, c'est sûr.
Et donc, il y a à la fois, je ne dois rien aux autres, je suis tout puissant, et voilà.
Je suis autosuffisant, oui.
Et pour rester dans cette illusion, eh bien, je rabaisse les autres.
Oui.
Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'être plus puissant que les autres.
Bon, eh bien. Alors, à l'origine, au stade infantile, puisqu'il s'agit de cela, cette mégalomanie infantile, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est mal passé plutôt ?
Voilà, alors il y a ce que Racamier appelle le deuil originaire. En fait, l'enfant, pour grandir, doit sortir de la fusion. Et donc, il y a à la fois les forces de vie, la croissance qu'il pousse vers la sortie de la fusion. Et puis, en sortant de la fusion, il va perdre... En sortant de la fusion, il va perdre sa mère pour la retrouver à l'extérieur de lui. Et donc, il va la reconnaître comme n'étant pas lui. Hein, dans la fusion, il est en symbiose avec sa mère, donc sa mère et lui ne forment qu'un. Et puis, en défusionnant, il trouve sa mère à l'extérieur. Mais cette étape de la symbiose va constituer un deuil parce que, en sortant de cette fusion, il perd sa mère. Pas très longtemps, parce qu'il la retrouve après dehors.
Il y a un passage.
Il y a un passage qui est ce qu'on appelle le deuil originaire.
D'où un état de crise qui peut exister.
De deuil.
Oui.
Hein, l'enfant va vivre un deuil, une période plus ou moins dépressive. D'ailleurs, Mélanie Klein appelle ça la position dépressive, pour bien exprimer ce que c'est. Voilà, l'enfant passe par une position dépressive.
Normal.
C'est pas une dépression au sens de la maladie. C'est une phase dépressive où l'enfant va ressentir la souffrance et le deuil pendant un certain temps de la perte de cette mère idéale qu'il avait dans la fusion.
C'est ce qu'on appelle la dépression infantile ?
Est-ce que... Non, autre chose. C'est autre chose. Là, on parle de position, on ne parle pas de la
maladie. Voilà,
la dépression infantile, elle peut arriver quand ça se passe mal, par exemple, ou quand la mère n'est plus là, qu'elle est absente ou qu'elle est hospitalisée moment-là, l'enfant va vivre une dépression infantile.
C'est un peu, je pense, ce que tu as vécu Thérèse de Lisieux, petite fille.
Ouais.
Hein, elle était en nourrice, puis séparée de sa mère, puis après de la nourrice.
Voilà, et elle a vécu successivement des phases de séparation avec sans doute une dépression infantile.
Mm-hmm. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Je rappelle aussi le téléphone à nos auditeurs, 01 56 2 fois 44 00. Nous parlons de la perversion narcissique ce soir. Hein. Avec ce titre un peu provocateur, faut-il voir des pervers partout ? Nous écoutons ces Grégoire qui chante « Toi plus moi ».
Radio Notre-Dame.
Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus serre. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse. Allez.
C'était Grégoire, toi plus moi. Ce soir, eh bien, nous parlons, là-bas, toi plus moi, là, il y a une certaine altérité, là.
Là, il y a une altérité, oui.
Oui. Alors que, justement, on parlait de ce deuil originaire que l'enfant doit vivre, une étape normale de croissance, quand il défusionne de cette symbiose avec la mère.
Oui.
Et donc, il y a une petite étape de dépression.
Voilà, il y a une phase, on appelle ça une phase ou une position dépressive. Alors, ce n'est pas une dépression au sens où on l'entend de maladie, mais il y a une position dépressive où l'enfant va faire ce deuil.
Oui.
le deuil de la symbiose, en quelque sorte.
Donc ce qu'il nourrissait, ce qu'il... Eh bien, ça fait... Ben, il est en creux, là.
Il est en creux, voilà. Mais c'est ce qui va lui permettre aussi de grandir...
Ben oui. Dans l'autonomie.
Dans l'autonomie et après d'arriver à l'Oedipe.
Voilà, hein? D'accord. Alors, quand ça se passe normalement, ça va, mais ça peut arriver que ça se passe mal.
Voilà, et c'est le cas dans la perversion narcissique. L'enfant, finalement, n'arrive pas à faire le deuil et à traverser cette position dépressive, ni même à entrer dedans.
Ah oui, il n'entre pas dans la position dépressive.
Voilà. Et il va la dénier pour ne pas ressentir. Alors le déni, c'est un mélange, je sais et je sais pas.
Ah oui.
C'est-à-dire, je sais que ça existe, mais en même temps, je fais comme si, alors, mais sans m'en rendre compte, que ça n'existe pas. Et donc, il va dénier pour ne pas en ressentir la douleur.
D'accord. Hein? La douleur de cette dépression passagère.
Voilà. Il est bien dans la perte de cette symbiose, mais il dénie pour ne pas ressentir la douleur.
D'accord, oui. Ce qui est en fait tout déni, c'est ça.
C'est ça.
Pour ne pas ressentir la douleur, oui.
Et ensuite, il va isoler dans son psychisme cette partie douloureuse. En la clivant, c'est-à-dire il l'isole en coupant une partie de son psychisme du reste.
Ça peut devenir de la schizophrénie, non ?
Alors, les psychotiques fonctionnent beaucoup avec ce mécanisme de clivage.
Hein. D'accord.
Donc là, on est dans des mécanismes très archaïques de clivage où le psychisme est... en partie coupée, en tout cas la partie douloureuse là est d'abord déniée et ensuite coupée et isolée.
On l'isole.
Et enfin, il va s'en débarrasser en la projetant chez l'autre.
Ah oui. Hein? Comme ça au moins, il
ne risque plus de la ressentir.
Ben oui, c'est ça, hein? il l'évacue.
Voilà, donc il commence par nier. Ensuite, il l'expulse à l'extérieur.
Donc, il projette sur quelqu'un d'autre.
Voilà. Alors, la séduction narcissique, là-dedans, elle va permettre d'accrocher, si on peut dire, les autres et la projection de jeter le dévolu sur la personne. C'est-à-dire, la séduction narcissique, ben, comme son nom l'indique, c'est de la séduction.
Oui.
Mais qui se place à un niveau narcissique, mais enfin la séduction elle est quand même très souvent au niveau narcissique. Et puis la projection, ben, ça va être, c'est sur telle personne.
Mais cette dévolue sur telle personne est fonction de quoi ?
Ben, on va voir.
On va voir.
Ça peut être n'importe qui, mais quand même il faut des opportunités.
Ah oui, d'accord.
Hein?
Bon.
Mais on peut dire que peu importe la personne, ce qui est important, c'est de pouvoir se débarrasser de ce conflit interne et de pouvoir l'expulser dans le psychisme de quelqu'un d'autre.
Dans le psychisme de quelqu'un d'autre.
Oui. On verra, ça passe à travers la parole aussi, où on verra que c'est une parole qui agit. Alors, et pour que les auditeurs comprennent, on pourrait dire qu'il s'agit d'une projection d'un type un peu paranoïaque. Et ce qui est projeté, ce sont les conflits internes, mais là, c'est l'autre qui va en payer l'addition.
Ah oui.
Hein? Le paranoïaque, il va projeter ses conflits internes, son agressivité, par exemple, chez l'autre.
Oui.
Mais elle lui revient en quelque sorte en boomerang,
sous
forme d'angoisse paranoïaque. Donc, il va croire que l'autre veut l'attaquer.
Ah oui,
Il ressent de l'agressivité en lui. il la projette chez l'hôte et elle lui revient sous forme de « l'hôte va m'attaquer ».
Ah oui, d'accord, hein? D'accord. Mais ça n'a rien à voir, ça, avec...
Avec la perversion. Dans la perversion, c'est le même type de projection.
Oui, sur l'autre.
Sauf que là...
Il n'y a pas de boomerang.
Il n'y a pas le boomerang, c'est l'hôte qui va payer la note.
Mais alors comment ça peut se faire la différence? Enfin, c'est un type, selon
c'est,
le type.
Voilà, c'est le type de mécanisme qui est différent... parce que c'est pas la même défense, finalement.
Oui, oui, d'accord, hein? C'est pas la même défense.
Même si c'est assez voisin. C'est un mécanisme assez voisin, mais ce n'est pas la même défense.
Paranoïa et
perversion.
Et perversion, oui. Hein?
Et donc, finalement, on peut dire que la perversion narcissique, c'est une défense à la fois contre le deuil et la dépression. Hein? C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est le deuil de la symbiose et la phase dépressive. Mais dans ce cas-là, comme c'est mal vécu, le risque, c'est la dépression. Donc la défense, elle concerne et le deuil et la dépression qu'aurait pu vivre l'enfant.
Dans la perversion.
Dans la perversion.
Au narcissique, ouais. Oui. D'accord. Alors, donc c'est une défense contre le deuil et la dépression, on peut dire.
Voilà.
Oui. Alors, donc vous venez de dire que c'était une défense contre le deuil et le conflit interne, en fait, aussi.
Et le conflit interne.
Hein? Est-ce que vous pouvez expliciter ça un peu plus, peut-être?
Oui, c'est-à-dire que en fait, l'enfant, quand il vit la séparation, enfin la diffusion, la séparation, hein, c'est une séparation de la symbiose, il fait un deuil.
Oui.
Il va avoir des images dans son psychisme, des scénarios qui vont se mettre en place, des fantasmes. Et tout ça va, pour pas souffrir le deuil, ça va être dénié, donc dénie la souffrance, isolé
et projeté
à l'extérieur.
Sans retour à l'envoyeur, voilà. sans boomerang.
Ce qui fait qu'il ne ressent pas le deuil et il ne le vit pas, puisqu'il est expulsé. Ni les conflits, tous les conflits internes, tout ce qu'il pourrait ressentir comme douleur, comme souffrance, comme contradiction aussi, liée à ce deuil, il ne va pas les ressentir, ils sont expulsés à l'extérieur.
D'accord. Alors, c'est projeté dans l'autre, mais dans l'autre, ça provoque quelque chose, évidemment.
Alors, ça va agir dans l'autre. Hein.
Il y a une action.
Oui, il y a les deux. Il y a l'aspect de défense, de protection. Il y a le côté narcissisme qui mène à la survalorisation et à l'expulsion des douleurs, donc on l'a dit, liées au deuil.
Oui.
Mais cette expulsion, elle va aussi augmenter le côté narcissique. Mais au détriment de l'autre. C'est-à-dire que c'est d'abord expulsé chez l'autre, à son détriment.
De l'autre.
De l'autre. Ce qui fait que le pervers narcissique, il va se sentir valorisé.
Libéré, on peut dire.
Libéré, mais aussi valorisé.
Valorisé, d'accord.
Hein, puisque maintenant, c'est plus lui qui est en souffrance, c'est l'autre.
Ah oui, c'est plus lui qui a le conflit, la souffrance.
C'est chez l'autre.
Oui.
Et donc, lui, ça lui donne une illusion de plus de valeur.
Il résout son conflit de cette façon-là, quoi.
Voilà.
Oui, au lieu de le résoudre.
Au lieu de le résoudre à l'intérieur de lui, il le résout en l'expulsant.
En illusion, quoi.
En illusion.
D'accord. Alors, il l'expulse, et alors?
Et alors, tout ce qui a été dénié et projeté va agir dans l'autre.
Donc, ce qui est en lui va
agir dans l'autre.
Et par le biais de la parole, par le biais de quoi? Comment ça va être expulsé?
Alors,
la projection, comment elle peut se faire, la projection
ben,
de...
Je vais vous donner un exemple. Quand on regarde un enfant, par exemple, qui pleure, qui fait une colère.
Oui.
Donc là, il exprime quelque chose.
Oui.
La mère qu'il perçoit, elle va intégrer en elle...
Oui.
Les cris de l'enfant, ses pleurs, et puis elle va les élaborer, c'est-à-dire qu'elle va ressentir en elle la souffrance de son enfant,
oui.
Et elle va en faire quelque chose. Et puis elle va se dire, tiens, mon enfant, il a faim, tiens,
ah oui.
Il
elle
est
va
sale.
Comprendre, oui.
Voilà. Et du coup, elle va renvoyer un message à l'enfant.
Oui.
Qui va être différent de ce qu'il a envoyé.
Oui.
Et qui va lui permettre de s'apaiser.
Oui, parce qu'il aura compris quelque chose.
Parce que la mère aura compris quelque chose.
Oui, et qu'elle projette aussi pour l'apaiser, non?
Voilà, elle lui renvoie.
Par projection.
Voilà, c'est...
Mais une bonne projection.
Oui,
non.
En fait, l'enfant projette dans la mère.
Oui, la mère élabore.
La mère élabore
et elle
reprojette à l'enfant ce qu'il lui a donné. Mais
une bonne projection.
Mais une bonne projection
positive.
Parce qu'elle a pu l'élaborer.
D'accord, et l'enfant, donc, va être satisfait, enfin, il va comprendre quelque chose.
Voilà, il va s'apaiser. En tout cas, ce qui lui est renvoyé va être beaucoup plus apaisant que ce que lui avait envoyé à la mère.
D'accord.
Et donc, petit à petit, comme ça, il va apprendre que ce qu'il ressent n'est pas si dramatique que ça et que ça se résout avec l'aide de la mère.
D'accord. Hein? Voilà. Oui, oui.
Là, de la même façon, le pervers narcissique va projeter chez l'autre et créer une confusion dans l'autre.
Oui.
Voilà. Simplement, là, il s'attaque à son narcissisme, c'est-à-dire à son image, à sa valeur, et l'autre va rester dans la confusion.
Ah oui. Hein?
Et du coup, cette confusion, elle va agir en lui, par la dévalorisation, par l'humiliation, par le doute, de différentes façons.
Il va être démoli quelque part. Ouais.
Alors, à l'extrême, la personne peut être complètement détruite.
Mm-hmm. En tout cas, elle va être en position, pas bien, ça va
pas bien,
dans sa peau.
Pas bien, voilà. Et c'est ça qui agit, en fait. C'est cette projection qui agit.
Le mal de cette personne qui passe dans l'autre.
Qui passe dans l'autre et qui crée la confusion.
D'accord, hein? Oui. Bon, et alors il y a cette phase de jouissance en plus aussi, de la personne.
Oui, alors...
Qui va projeter.
Voilà, avant même la jouissance, déjà, il y a ce que Mélanie Klein a appelé l'envie, qui est de vouloir détruire ce qui est bon chez l'autre, ou ce qui est aimable chez l'autre.
Ah. Hein? Oui, c'est pervers, ça a un sens.
Dans l'envie, en fait, telle que l'a décrit Mélanie Klein, en fait, ça concerne une problématique plutôt infantile, mais qu'on trouve chez l'adulte. Là, on est dans quelque chose de pathologique.
Mm-hmm.
La personne aime... ou trouve quelque chose d'aimable chez l'autre, mais elle ne le supporte pas et elle va vouloir le détruire. Hein? Et là, c'est ce qui se passe, donc après parce que c'est à peu près synchrone, avec cette projection, eh bien, il y a aussi l'envie de détruire ce qui est aimable chez l'autre. Et donc, le pervers narcissique va s'attaquer au narcissisme de l'autre.
Ah oui.
Donc à sa valeur, à ce qui est, bon dans sa personnalité.
Pour le démolir quelque part.
Pour le démolir, oui. À cause de la haine qui l'anime finalement.
Donc il y a une haine.
Il y a une haine.
Mais c'est le contraire de l'amour, quoi.
Ah oui.
Et même si c'est une perversion de type séduction et pas agressif.
Alors, elle est moins marquée. Dans la perversion de type agressive, la haine ressort plus. Dans l'autre, c'est la séduction qui ressort plus, mais ça n'empêche que la haine est l'envie est quand même sous-jacente. Hein.
D'accord.
C'est simplement ce qui ressort le plus dans le processus.
Merci. On va poursuivre dans quelques instants, Pascal Parinet. Je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00. Nous parlons de la perversion narcissique. Faut-il voir des pervers partout? On se retrouve à 23h.
Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 10h06 et 18h15. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h06 et 18h15 sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi, c'est du lundi au vendredi à 6h33 et 18h25 sur Radio Notre-Dame.
Pour écouter en direct, réécouter et podcaster vos chroniques et vos émissions préférées, rendez-vous sur notre site internet. En un clic, découvrez aussi nos web radios, musique sacrée, foi et raison. Radio Notre-Dame, c'est partout en France, 24h sur 24. Toute l'équipe de Radio Notre-Dame vous donne rendez-vous sur le www.radionotredame.com.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
En compagnie de Pascal Parinet, ce soir, la perversion narcissique. Vous avez quelque chose vous proposez des stages là-dessus
Non, on ne propose pas de
stage. C'est
on a un stage qui s'appelle « Comment gérer l'agressivité et les personnalités difficiles ?»
Oui.
Mais qui est au sens large, spécifique à ça.
Oui, d'accord. Mais c'est plus au cas par cas quand vous avez...
C'est plus au cas par cas. Ce qu'on voit plutôt, finalement, ce sont les personnes victimes.
Ah oui.
Et là, qui ont besoin d'une reconstruction.
Mais le pervers, lui, ne...
C'est rare qu'il vienne
en consultation.
Est-ce
qu'il ne reconnaît pas?
D'abord parce qu'il ne reconnaît pas, et puis quand ça ne fonctionne pas avec une personne, il va voir ailleurs.
Oui, d'accord.
Donc, il n'a pas conscience.
D'accord. Ouais.
Donc, c'est très rare qu'il vienne consulter. Il faut vraiment qu'il y ait un effondrement que ça se passe très mal pour qu'il vienne consulter. Par contre, les personnes qui ont subi... des attaques de perversion narcissique, là, souvent, elles ont besoin de se reconstruire. Et là, on les voit en consultation.
Oui, d'accord. Alors, peut-être... on parlait de la défense au service du narcissisme. La jouissance, là-dedans, dans cette projection.
Alors, la jouissance, elle est d'abord liée à la survalorisation. Hein,
oui, oui, d'une supériorité, quoi.
Voilà, ouais. D'une toute puissance. Et puis au fait de constater l'effet destructeur qui est produit chez l'autre, ce qui donne cette illusion ou ce qui conforte cette illusion de toute puissance. Alors, finalement, dans la perversion narcissique, ben, on l'a vu depuis le début, ça permet d'éviter la souffrance, la douleur, mais aussi ça permet d'éviter d'être attiré par l'autre à cause de son incomplétude.
Hein, l'altérité.
Puisque, voilà, oui. De ressentir l'altérité, et donc oui. Le risque d'attirance vers un autre.
D'accord. Hein? On est attiré par soi, narcissique.
Voilà, c'est complètement orienté vers soi comme une protection contre la souffrance. Et en même temps, ça empêche l'altérité, donc d'être attiré par quelqu'un d'autre.
D'accord. Et l'autre qu'on essaie de projeter, c'est pas une attirance
C'est pas une attirance. Il n'y a pas d'attirance. C'est simplement se débarrasser d'une souffrance interne.
Ah oui, oui.
Hein? Alors... Au détriment de l'autre.
Au détriment de l'autre, oui.
Ce qui fait que le véritable danger de la perversion narcissique, enfin pour la personne, ce dont elle se défend, c'est de la dépression narcissique et du vide lié à un effondrement, en fait.
Hein.
Donc elle se protège du vide lié à une dépression, mais une dépression du type effondrement.
D'accord. Hein? Merci Pascal Parinet. Vous allez mettre votre casque. Donc le téléphone 01 56 2 x 44 00 pour nous rejoindre. Nous écoutons tout de suite André qui appelle depuis le sud-est de la France. Bonsoir André.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ma question, elle se situe au niveau d'un couple en difficulté de relations et d'échanges, est-ce que ce mécanisme de protection peut s'installer? C'est-à-dire que vis-à-vis de l'entourage, le mari va chercher à se faire valoir aux yeux des autres, en se survalorisant pour se défendre et en écrasant l'autre et en accusant l'autre de tous les maux, de ce qui ne va pas dans le couple. Et vu l'extérieur, on va dire de cet homme-là, mais c'est un macho ton mari.
Oui.
Et ce même mari, c'est ce que je vous raconte là, c'est du vécu, ce même mari a entendu de son propre père une fois, enfin peut-être d'autres fois, mais au moins une fois, son propre père dire à sa femme, avec laquelle il était en conflit, « Si tu pars, je te tue ». Donc là, on met, voilà un homme, est-ce qu'on, d'un côté on peut parler de macho, est-ce que d'un autre côté on... Voilà un homme qui terrorise sa femme, qui n'en peut plus et qui veut partir, mais si tu pars, je te tue.
Oui, alors si vous voulez, c'est deux choses différentes. Là, c'est de l'ordre de la menace, donc d'une séparation impossible pour la personne. Ça peut arriver, ça ne veut pas dire qu'il y a perversion. En tout cas, on est dans des violences liées à une séparation insupportable. Après, il peut y avoir perversion, mais il faudrait voir si comment la personne trouve sa valeur en dévalorisant l'autre. Voyez.
Oui.
Et ça, soit dans le couple, soit devant des témoins aussi, souvent. Par exemple, un repas avec des invités où la personne va se valoriser, mais en écrasant son épouse. Voilà, là on est dans la perversion. À partir du moment où il y a valorisation en écrasant l'autre, on est dans un mécanisme de perversion.
Voilà, André. Vous voulez...
Hein? Donc le cas que vous décrivez, il faudrait voir dans le détail exactement comment ça se passe, mais c'est possible que ce soit un méga... Alors le macho, c'est pas tout à fait pareil. C'est disons le macho, il va valoriser l'homme. il va se croire, il croit l'homme supérieur. Mais c'est pas forcément au détriment de la femme, voyez.
Oui.
S'il utilise la femme, s'il va humilier ou chercher à détruire sa femme pour se valoriser, là oui, c'est oui. De la perversion.
Voilà, André.
Ou détruire sa femme pour pas reconnaître ses propres faiblesses ou ses propres manquements.
Oui, mais là c'est différent. Là il est dans la souffrance d'une séparation qui le renvoie à la violence.
Oui. Hein.
Donc il est plutôt dans un mécanisme. C'est tellement dur pour lui de se séparer que ça génère de la violence. Mais il n'est pas dans je te détruis pour trouver ma valeur.
D'accord.
Hein, ou pour avoir de la valeur aux yeux des autres.
Mm-hmm. Voilà, André.
Merci beaucoup. Merci.
De rien.
Bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Nous écoutons Gilbert tout de suite.
Oui.
Gilbert, bonsoir. Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
En fait, moi j'ai un petit témoignage à donner sur ces questions-là. Moi j'ai 48 ans et en fait j'ai découvert il y a peu de temps en fait que ma sœur aînée, on va dire, avait ce comportement. Moi j'appelais ça, enfin la dénomination sous laquelle je l'avais découvert, c'était pervers manipulateur.
Oui.
Mais effectivement je retrouve bien ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, en résumé de l'histoire, dès que j'étais petit enfant, il y a toujours eu un conflit entre ma sœur et moi. On n'était que deux. Hein. Ma sœur aînée a 3 ans et demi de plus que moi.
Ouais.
Et en fait, ma sœur m'agressait verbalement, dès ma plus petite enfance, je me souviens qu'elle se moquait de moi, qu'elle disait que je me tenais mal, que j'étais bête, enfin bon, il y avait des tas de choses comme ça, et puis ça se terminait toujours en bagarre, parce que donc moi, je dirais, j'avais pas les mots pour répondre à ces insinuations, et donc en général, on se tapait dessus.
Oui.
Et nos parents considéraient ça, en fait, comme des conflits d'enfants. Bon, ils disaient toujours que ma sœur avait un caractère difficile, mais bon, ça n'allait pas plus loin.
Mmh.
Et puis donc moi, j'ai vécu comme ça pas mal de temps, moi, jusqu'à ce que ma sœur parte de la maison. Et puis, après, j'ai vécu une conversion au Christ. Et à ce moment-là, je me suis dit, si ma sœur est comme ça, c'est qu'elle doit souffrir. Et je me suis dit, je pense que ça doit être une jalousie mal gérée. Donc moi, à l'époque, je ne savais pas tout ce que vous m'avez dit là.
Oui.
Et donc je me suis dit, ce qu'il faut, c'est lui montrer qu'on l'aime, qu'il n'y a pas de problème, enfin que voilà, bon. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'efforts envers elle. Bon, on n'obtenait pas de résultats, mais bon, je me disais, c'était un moyen un peu de l'amadouer. Bon.
Mmh.
Et puis, je me suis marié, et je pensais que le problème n'était que sur moi. Mais finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans son entourage, et puis en particulier vis-à-vis de ma femme, elle avait ce comportement aussi agressif en parole, méprisant, donc... et puis toujours, on va dire, ce côté survaloriser elle-même, donc ce qu'elle fait, ce que font les autres, c'est nul, et puis qu'elle, elle connaît tout, que c'est intéressant ce qu'elle fait, bon voilà, etc. Et puis, en fait, jusqu'il y a un an, j'ai fait une retraite de guérison, et puis au cours de cette retraite de guérison, enfin elle n'était pas pour moi d'ailleurs, cette retraite de guérison, c'était pour un de mes enfants, mais au cours de cette retraite de guérison pour un enfant, on prie aussi pour les parents. Et puis donc au cours de l'échange avec le couple qui allait prier pour nous, la femme qui était psychologue me fait parler un peu. Donc moi j'ai dit, j'ai des problèmes relationnels avec ma sœur, bon sur tel point, etc. Et elle me dit, alors assez brutalement, et sur le moment je me suis dit c'était exagéré, elle m'a dit, il faudrait couper les ponts avec votre sœur parce que c'est une personnalité nocive pour vous et pour votre famille. Donc j'ai trouvé que c'était un peu fort, puis j'ai oublié ce qu'elle m'avait dit, puis voilà. Bon. Et il se trouve que 6 mois de cela après, il y a eu un gros conflit entre ma sœur et ma femme, et ma sœur et moi. Donc, en fait, d'une agression verbale au cours d'une d'une cérémonie familiale qui n'avait rien de méchant, parce que c'était la communion de ma petite dernière, et que je l'avais choisie comme marraine. Hein. Donc, si vous voulez, elle était plutôt bien reçue, quoi. Et donc, ça m'a été tellement violent pour moi, si vous voulez, une agression verbale, complètement déplacée, enfin... Et puis ensuite, après, avec dénégation, c'est-à-dire, vous dites, mais attends, tu peux pas parler comme ça, etc. Et puis là, c'est comme si c'était moi qui, en fait, l'agressais quand je dis ça. Donc, du coup, bon, moi, j'ai décidé de couper les ponts à partir de ce moment-là. Et c'était tellement dur à vivre que j'ai dû aller voir, en fait, une psychologue et parler de ces événements pour arriver à les sortir. Et en fait, cette femme m'a dit, en faisant un peu décrire le mécanisme, m'a dit, mais votre sœur, c'est comme si elle avait une colère intérieure. Et que cette colère, elle vous la faisait vivre. C'est-à-dire, en vous agressant, à votre tour, vous êtes dans la colère. Mmh. Et à ce moment-là, elle a parlé de ce terme de personnalité. Donc elle disait manipulatrice, pervers manipulateur. Et je me suis souvenu à ce moment-là de ce qu'avait dit cette autre femme 6 mois auparavant. Et donc elle m'a conseillé de lire un livre qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous » de Isabelle Naza. Oui. Agar, je crois, qui est une psychologue. Et en lisant ce livre, il y a 30 critères possibles pour ce type de personnalité. S'il y en a au moins 10, la personne l'est. Et il se trouve que, bon, moi, en faisant la liste un peu des critères, en fait, j'ai trouvé que ma sœur en avait 25. Donc je me suis dit, bon, a priori, c'est ça. Et puis en lisant le livre, au fur et à mesure que je lisais le livre, les témoignages, ça m'est apparu effectivement assez fort. Alors moi, je dirais, bon, maintenant, le moyen que j'ai trouvé, c'est effectivement de prendre des distances, hein, donc de ne plus échanger que par mail, hein, parce que même par téléphone, c'est...
Vous avez combien d'écart entre les deux ?
Je peux me faire agresser.
Il y a combien d'écart entre les deux ?
Pardon, je vous entends très mal.
Vous avez quelle différence d'âge entre...
Trois ans et demi, donc ma sœur a 52, quoi.
Parce que, vous voyez, dans tout ce que vous décrivez, alors il faudrait regarder dans le détail, bon, il y a des psychologues qui vous ont dit que c'était plutôt de la perversion narcissique, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit une rivalité oedipienne, plus que de la perversion. Parce que, vous voyez, dans l'Oedipe, en plus, elle est plus âgée que vous.
Oui.
Hein? Donc, elle a sans doute, vous êtes venu lui, quelque
oui,
part...
Oui, lui ravir, c'est ce que je pensais au départ, je m'étais dit.
Lui ravir sa place.
Voilà.
Elle était dans l'entrée dans l'Oedipe, pas loin. Et il y a quand même... pas mal de chances que ça soit une rivalité oedipienne, alors très marquée.
Quand je suis né, elle avait 3 ans et demi. Hein.
Oui.
Donc je ne sais pas l'Oedipe à quelle période c'est, je ne suis pas psychologue. Mais...
Voilà, mais en tout cas, il y a des chances que ça relève plutôt d'une problématique oedipienne très marquée. Et dans ce cas-là, d'une rivalité très, très forte et avec de l'agressivité. Maintenant, tel que vous le dites, après, si deux psychologues ont parlé avec vous un peu plus dans le détail et ont dit que c'était plutôt de la perversion, ça peut être de la perversion. Mais je dis ça, vous voyez, justement, parce que ça rejoint le titre de l'émission, « Faut-il voir des pervers partout ?» Je pense que, voilà... Il faut être attentif parce que une rivalité, ça peut être extrêmement agressif aussi.
Oui. Même s'il y a l'aspect manipulation, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une survalorisation par un rabaissement de l'autre et notamment une manipulation dans le langage.
Vous savez, dans la rivalité, il y a aussi une tentative de survalorisation. Hein. C'est pour ça que on va regarder après, on va rentrer dans le détail un peu de comment ça se passe.
Sinon, moi j'avais deux questions. C'est alors donc en tant que chrétien, parce que donc moi je suis chrétien, moi je me suis rendu compte que ça générait aussi de la colère et de la haine en moi.
Ouais.
Et donc du coup, effectivement, moi je fais des démarches de pardon, mais le problème c'est que les démarches de pardon, je ne peux pas les faire en contact avec ma sœur, parce que j'ai tenté une fois, il y a un certain temps, en disant, je te pardonne certaines choses. Elle niait, en fait. Elle disait, mais non, il n'y a pas de problème. Et à la limite, c'était moi qui avais le problème. Donc du coup, bon, moi, les démarches de pardon, je les fais du coup vis-à-vis du Seigneur. Hein. Mmh. Mais la question, c'est comment arriver quand même à vivre en tant que chrétien, je dirais, une relation comme ça. Parce que c'est vrai qu'on attend quand même l'amour et arriver à faire une communion, surtout en plus dans une famille. Enfin, donc voilà. Et ma deuxième question, c'est comment aider ma sœur. Parce que moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a comme un enfermement. Hein. Par exemple, j'ai le témoignage d'une de ses filles, parce qu'elle, donc, elle est mariée, elle a des enfants,
oui.
Et qui a dit, moi, quand j'ai fini mes études et que je peux partir, je partirai de la maison parce qu'elle n'en peut plus. Mmh. Donc, c'est pour ça que je disais aussi que vous parliez de rivalité, certes, mais visiblement, ça se transmet à d'autres personnes de l'entourage qui ne sont pas que moi. Parce qu'au départ, moi, je pensais que c'était que vis-à-vis de moi. Mais finalement, je vois qu'il y a d'autres personnes qui subissent un peu la même chose. Et donc, comment l'aider? Parce que moi, ce que je vois quand même dans l'attitude de ma sœur, et puis en lisant un peu ce qui est dit sur ces caractéristiques-là, c'est qu'il y a comme un enfermement de ces personnes-là.
Alors, Pascal Parinet va vous répondre.
Voilà. Hein. D'accord.
Alors, comment l'aider? Le pardon, vous n'avez pas besoin d'aller lui dire « je te pardonne hein, ». Pardon, c'est à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment...
une démarche personnelle.
C'est une démarche personnelle. Donc, ça ne vous empêche pas de pardonner. Bon, après, si les événements recommencent, c'est à chaque fois un nouveau pardon à donner. Maintenant, tel que vous le dites, si plusieurs psychologues vous ont dit que c'était une perversion, le meilleur moyen, c'est de mettre de la distance. C'est pas la peine d'aller prendre des coups. Il vaut mieux mettre de la distance et l'aider, vous pouvez pas beaucoup l'aider. C'est d'abord à elle à prendre conscience de son mal-être et à faire une démarche. Hein? Voilà. Après, vous pouvez prier pour elle.
Oui, ça, effectivement, je le fais, oui.
Voilà, Gilbert, il n'y a pas... c'est la prière là, dans cette situation-là, et puis le pardon, hein, donc...
Voilà, et puis...
De votre côté. Une distance pour
protéger. Et une distance pour vous protéger, vous et votre épouse.
Hein. Vous la mettez, vous la confiez dans le Seigneur, il n'y a que ça. Hein, parce que si elle ne veut pas faire de démarche, et si elle n'est pas consciente...
Voilà, alors, ou en tout cas, elle est dans le déni de ce qui se passe.
Voilà, Gilbert.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Alors, on se retrouve dans quelques instants.
Et Dieu dans tout ça, James Combépine.
Bonjour, notez bien, le 3 juin à 20h au Collège des Bernardins, je recevrai Philippe Ozzo di Borgo, Anne de Fine-Julian et Frédéric Bedos pour un enregistrement en public des Dieux dans tout ça. Philippe Ozzo di Borgo, dans son livre Le Second Souffle, nous parle de sa vie avant et après l'accident, sa vie qui a inspiré le film Intouchable. Anne de Fine-Julian est journaliste, elle est l'auteur du livre Deux petits pas sur le sable mouillé. Frédéric Bedos est animatrice à la télévision. Actuellement, elle se consacre au projet Imagine, qu'elle a fondé et qui a pour objectif d'aider ceux qui aident. Pour réserver vos places et poser vos questions à nos invités, le lundi 3 juin à 20h au Collège des Bernardins, rendez-vous sur radionotredame.com ou collegedesbernardins.fr ou téléphonez au 01 53 10 74 40.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de Croire.com. Pourquoi y a-t-il tant de femmes dans l'Église et aucune pour célébrer l'Eucharistie? Le pape est-il vraiment infaillible? Le Dieu de l'Évangile est-il celui de l'Ancien Testament? À toutes ces questions, et à bien d'autres encore, je vous propose de répondre chaque semaine en compagnie d'un invité. Soyez donc au rendez-vous pour interroger l'Église et pour savoir ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les mercredis à 20h30 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Donc avec Pascal Parinet ce soir, nous parlons de la perversion narcissique. On va peut-être voir d'abord, avant de prendre d'autres auditeurs, comment ça se passe, parce que ça pourra éclairer aussi les personnes qui se posent la question.
Oui. Alors, on a vu déjà que c'était se faire valoir au détriment d'autrui.
Oui.
Ça veut dire que le pervers narcissique est dans l'agir. Alors, l'agir, ça peut être qu'il a des projets, mais c'est aussi un agir en étant dans la manipulation.
C'est-à-dire, oui, un agir dans la manipulation, c'est-à-dire
Qui va manipuler la personne, qui va manipuler l'entourage.
À partir de l'action.
À partir de l'action.
Oui.
Mais l'action est de la parole, parce qu'on l'a dit, il est dans une parole-action, en fait.
Parole-action.
Une parole agissante.
Oui, qui est pas parole-réflexion.
Non. Alors...
Oui.
Donc, au départ, pour pouvoir éviter son mal-être intérieur, il va trouver une victime. Et la personne choisie, c'est pas une personne qu'il va aimer. C'est il va utiliser quelqu'un comme il utiliserait un objet.
Mais alors quel critère justement qui va favoriser ce choix, disons, entre guillemets?
Alors, il faut trois conditions. La première, c'est une occasion, c'est-à-dire faut qu'il ait l'occasion de se valoriser au détriment de l'autre.
Oui.
Et ça se présente pas à tous les moments. Il faut un environnement propice. C'est-à-dire un environnement qui va accepter ça.
Ah oui, oui.
Et puis, il faut le concours involontaire d'une personne et de l'entourage.
Ah oui,
donc il faut
résume les deux, oui.
Il faut et l'occasion et l'environnement et une victime involontaire.
Oui.
C'est-à-dire que la victime a concours à ça.
Oui, elle concourt.
Mais d'une façon, bien sûr, involontaire. Puisque,
par sa personnalité, elle concourt
alors,
comment
en prêtant à la projection.
Ah oui, elle permet la projection, elle accepte la projection.
Elle accepte. Alors, c'est facile à dire. Quand on n'en connaît pas les mécanismes, c'est un peu plus compliqué.
Oui.
Mais en tout cas, elle participe d'une façon involontaire en se faisant le réceptacle de cette projection.
Donc une personne très réceptive, par exemple, peut plus facilement être cette victime.
Oui, une personne sensible, par exemple, sensible, sera plus facilement réceptive que quelqu'un qui sera rigide, par exemple. Alors, donc, ces trois conditions sont indispensables, sinon, la personne, le pervers narcissique, il va aller chercher ailleurs.
Voilà.
Donc, déjà, il faut qu'il y ait ces trois conditions.
S'il n'y a pas, donc il n'y a pas de... Donc, il va ailleurs.
Il va ailleurs parce qu'il est dépendant de ces conditions, en fait.
Oui.
Plus il veut ne rien devoir, plus il devient dépendant des circonstances des autres. Donc, alors comme son objectif, c'est pas devoir et de prendre aux autres, il va manipuler aux dépens d'autrui. Donc, il y aura systématiquement de la manipulation. Et il ne reconnaîtra aucune supériorité des autres et de qui que ce soit. Et dès qu'il y aura un rival, il va l'éliminer.
Dès qu'il voit quelqu'un qui pourrait être...
rival, au niveau narcissique.
Ah,
c'est-à-dire, dès que quelqu'un risque d'être sur le devant de la scène, ou en tout cas plus devant la scène que lui, il va chercher à l'éliminer. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, il s'attaque à ceux qui s'exposent.
Oui.
Donc, un des moyens, c'est de ne pas s'exposer, déjà. Et ce qui compte, ce qui est important pour lui, c'est que lui ne souffre pas. Et donc, toute cette manipulation, toute cette mise en place qu'on a vue depuis le début, il va le faire dans l'ombre, sauf s'il y a un public qui participe. Hein, parce que ça peut arriver que l'entourage, les collègues ou autres, participent d'une certaine façon.
Inconsciemment.
À admirer celui qui dévalorise.
Ah oui, hein? Oui, d'accord.
Alors, il va exploiter l'autre, il va le disqualifier, il va l'humilier, de façon à ce qu'il n'ait plus rien d'enviable à ses yeux. Mais alors, tout ça, c'est avec habileté quand même. Hein, c'est pas...
C'est enveloppé dans du papier doré.
C'est enveloppé dans du papier doré. Parce que le pervers narcissique a le sens des opportunités et il a une espèce d'ajustement à la réalité. C'est pas quelqu'un de délirant, par exemple. Il est très dans la réalité et très dans l'opportunité.
D'accord.
Alors, pour ça, il va agir par surprise, c'est-à-dire qu'il va chercher à impressionner l'autre et à le déstabiliser, à le désarçonner. Donc ça, c'est la première salve, en quelque sorte.
Oui.
D'abord, surprendre l'autre pour le désarçonner. Et puis, il va frapper une deuxième fois pour jouir de sa toute-puissance. Donc souvent, c'est une action à double temps. Le premier temps, c'est la déstabilisation, et le deuxième temps, c'est... un deuxième coup pour jouir de sa puissance.
C'est vraiment pervers, on peut le dire, dans le sens courant.
Alors
la personne, vous disiez, peu importe.
Peu importe la personne.
C'est pas,
ce qui importe, c'est l'occasion.
Oui, comme vous disiez.
Que la personne s'y prête involontairement, qu'il y ait un public et que ça paraisse crédible. Finalement, que ça soit vrai ou faux, il s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est que ça soit crédible.
Ah oui, la vérité, c'est pas son fort.
Il s'en moque de la vérité.
Ah oui.
Du moment que ce qu'il dit paraît crédible aux yeux des autres.
D'accord. Et il est pas du tout conscient.
Alors, il a aucune conscience de son attitude et d'ailleurs ne se pose pas la question s'il fait bien ou s'il fait mal.
Ouais.
Parce que, d'abord, il n'a pas cette conscience de son attitude, mais il n'a pas de conscience morale non plus. Ce qui fait qu'il ne va pas ressentir de culpabilité à humilier, à faire mal à l'autre.
Oui, d'accord.
Hein? Et, alors, le problème de ce manque de culpabilité, c'est que ça fait qu'il n'y a pas de limite. Parce qu'une personne normale... elle ne va pas faire souffrir l'autre parce que si elle va se sentir coupable.
Bah
donc,
oui, c'est ça. Donc là, mais
donc
là, non.
Ça va l'arrêter. Là, il n'y a pas de culpabilité, donc il n'y a pas de limite. Et puis, il y a toujours ce fond de mégalomanie de l'enfant qu'on a dit. Et donc, plus ça marche, plus il est dans la toute-puissance. Et on le voit, par exemple, alors là, c'est très visible avec les dictateurs, les tyrans. Quand ça réussit, après, il n'y a plus de limite. Donc, et là, c'est pareil. Si ça réussit et que ça a démarré avec une personne, à ce moment-là, il se sent tout puissant et il n'y a plus de limite.
Voilà. Donc, pour les tyrans, c'est les foules, enfin pour les dictateurs, par exemple. Merci, Pascal Parinet. On va écouter Florence tout de suite, qui est en ligne. Bonsoir, Florence.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, j'ai pris votre émission en cours de route et justement, je connais quelqu'un qui est comme ça. Je pense que c'est presque une caricature du pervers narcissique. Et ce qui m'intéressait, c'est que comme effectivement, au bout d'un certain nombre de... il m'a fallu des mois, des années pour arriver à dire que c'était pathologique, et ça m'intéressait beaucoup l'origine que vous expliquiez dans l'enfance, etc.
Oui.
Et donc c'est quelqu'un, en fait, pour expliquer rapidement, c'est quelqu'un qui est entré dans notre famille parce qu'on avait des grosses difficultés, quelque chose de très difficile à gérer, absolument pas géré. Et en fait, on avait été victime d'une escroquerie, donc il fallait, c'était une question de gérance, on était complètement dépassés. Donc cette personne est rentrée dans notre famille comme ça.
Ouais.
Et donc, bah, de fait, elle a eu une position dominante et elle était plutôt bienveillante au départ. Donc, et puis, c'est quelqu'un qui avait un discours. Alors, le discours, c'est sa force. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle, il parle minimum, il peut parler trois quarts d'heure, une heure. Donc, ça peut passer à plusieurs heures, etc. Et oh, ce qui est bien au début, c'est que c'est quelqu'un qui explique le monde. Et quand on est quelqu'un d'ordinaire avec des difficultés, il y a beaucoup de choses qu'on décrypte pas parce que d'abord on les imagine pas. Donc au début il y a un effet d'éclaircissement sur beaucoup de choses,
ouais.
Et on se sent bien au début. Donc ça vient, ça veut dire par exemple qu'on peut avoir envie on se sent bien. Ça veut dire que par exemple j'avais envie de faire une formation, j'ai un travail mais je voulais changer de travail. Par exemple, je me suis mis à m'inscrire dans une formation. Et ce qu'on voit apparaître, c'est que quand on commence à s'échapper, là, il va y avoir des critiques sur le fait, par exemple, de ne pas être présent tel jour, alors que, la formation, c'est une demi-journée par semaine. Bien sûr, il y a le travail. Mais, évidemment, mais comme on a encore cette fragilité, parce que les choses sont, il y a quand même des choses à régler, il y a toujours cette menace derrière qu'il peut éventuellement laisser tomber l'aide qu'il apportait. Donc, à un moment, comme ça, sur des mois, on se dit, il y a une forme de malaise qui s'installe et on en parlait entre nous, et on disait, mais les fruits, est-ce que c'est aussi bon que ça? Finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, c'est là que commence à se dessiner l'idée qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien.
Mmh.
Et ce qui est ce qui était presque fascinant, c'est, par exemple, la personne parle et il ne pouvait pas supporter l'idée d'une simple remarque, par exemple pour régler un problème, parce que on a tous un cerveau, on pouvait aussi proposer des solutions, là on était effectivement mis en cause, là on commençait à avoir un discours personnel sur nous, qu'on ne comprenait pas, même une simple remarque, quoi.
Ouais.
C'était presque ridicule. Mais en même temps, c'était un petit, c'était un peu étouffant. Alors, ce qui se passait, c'est que on l'écoutait parler, quoi. On attendait que la batterie se décharge, quoi. C'était vraiment ça. Parce que il suffisait, par exemple, d'émettre une critique pour se taper, par exemple, 2 heures de discours supplémentaires. Donc, c'était pas la peine, quoi. Donc, tout le monde s'est taisé à la fin. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui a un discours très construit. Il connaît tous les codes du bien et du mal. C'est vrai que vous dites que c'est des gens qui ne s'intéressent pas à ça, mais c'est quelqu'un qui
sait
tout très bien.
Oui, j'ai dit qu'il
attendez.
J'ai dit qu'il n'avait pas la conscience.
Oui.
Hein.
Oui, ça c'est. Ben oui, je comprends mieux beaucoup de choses. Mais au départ, effectivement, la personne ordinaire ne peut pas s'imaginer que ce que dit une personne avec autant de. De conviction, c'est il y a rien derrière, il y a pas cette conscience.
Ouais.
Justement, le discours moraux, on en a, nous, on en avait beaucoup.
Mm-hmm.
Donc, il faut beaucoup de temps pour comprendre ça, quoi. Et ce qui est, comme on est chrétien en plus, c'est quelqu'un qui a un discours chrétien et très fort sur, par exemple, sur la foi, sur le manque de foi. Et c'est même paradoxalement quelqu'un qui nous a fait revenir à l'église.
Vous voyez, tel que vous décrivez là, jusqu'à maintenant, je pense que c'est sans doute une personnalité narcissique, mais peut-être pas perverse narcissique.
Je pense que... Je finis avec mon histoire de chrétienté. Ce qui était curieux, c'est que quand on s'est vraiment mis à être pratiquante dans notre famille, il a commencé à critiquer le fait qu'on aille souvent à l'église. Et la confession, alors là, la confession, c'est le truc qui ne passait pas du tout. Quoi. Il sort de l'humilité, là, c'est... c'était très sérieux, c'était des discours qu'il faut même se méfier d'aller à l'église. c'est toujours si c'est pas là-bas qu'on trouve le diable, et les prêtres, faut pas trop... Oui, voilà, comme vous disiez, pas s'échapper, pas avoir d'autres avis, pas de... Voilà.
Discours inverse.
À partir du moment où ça commence. Pardon ?
Discours inverse du début.
Oui, voilà. Oui. Et à un moment, là, comme on est très avancé maintenant dans la pratique...
Qu'est-ce que vous voudriez savoir, là, précisément, pour qu'on puisse...
En fait, c'est juste un témoignage, parce que... Alors, juste quelque chose pour la perversion. Il y a quand même deux personnes que je connais qui se sont plaintes, quand même, d'attouchement, enfin, exactement, deux personnes qui se sont plaintes, hein, des choses concernées, des choses sexuelles. Et là...
De
il fallait voir
personne.
Comment cette personne s'est défendue. Et là, moi, je pense que... Et là, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que la personne étant... En fait, c'est comme si elle ramait pour... Elle refaisait du discours pour se défendre, D'accord. Et attention, en jetant l'anathème sur ces personnes-là, en les vouant à l'enfer, enfin, c'était vraiment...
Alors, que peut faire Florence face à cette situation, elle et sa famille Pascal Parinet.
Déjà, c'est de prendre une distance. Alors, vous voyez, on parlait d'occasion, d'occasion, d'entourage favorable et de victimes involontaires. Finalement, vous étiez dans une situation de faiblesse, vous étiez fait escroquer. Voilà, ce qui veut dire que pour cette personne, c'était une occasion de se valoriser en vous aidant. Là où j'ai un petit doute, peut-être il y a une perversion sexuelle, hein, puisque vous parlez d'attouchement sur d'autres. Là où j'ai un petit doute, c'est que il n'y a pas vraiment d'aspect de faire payer à l'autre. Vous voyez, dans ce que vous dites, il y a un aspect de valorisation, de narcissisme, mais il n'y a pas vraiment cet aspect de faire payer à l'autre. Alors, c'est là où on pourrait douter, est-ce que c'est vraiment une personnalité de type plutôt perverse narcissique ou narcissique tout court. On peut douter. Voilà, c'est vraiment cet aspect, je me valorise au détriment de l'autre en l'utilisant, en l'humiliant, en le dévalorisant, qui est très important dans la perversion narcissique.
Voilà,
après, ce que vous pouvez faire, vu que ça vous pose des problèmes, je pense le plus simple, c'est de prendre une distance. Hein. D'ailleurs, on pourrait peut-être enchaîner sur ce
faire. On va voir justement dans quelques instants. Voilà, Florence, okay. Merci.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Au revoir.
On écoute tout de suite, c'est Maurice Dulac et Marianne Mille. Dis à ton fils.
Radio Notre-Dame.
Dis à ton fils qu'il doit rentrer. La nuit va bientôt tomber.
Laisse-le jouer près de l'eau, le maïs est encore chaud.
Mais demain, il va falloir se lever.
Je sais bien, il faut planter le café.
Dis à ton fils qu'il doit rentrer. Je voudrais bien lui parler.
Je crois qu'il n'est pas encore temps. Ce n'est jamais qu'un enfant.
Mais demain, il faudra bien qu'il apprenne.
Ton chemin est fait de sang et de paix.
Dis à ton fils qu'il doit rentrer. Le mulet est déjà prêt.
Il a son fusil sur le dos. Il t'attend près du ruisseau.
Dès demain, nous serons dans la montagne.
Je sais bien, et que Dieu vous accompagne.
Ton fils n'est pas rentré, les soldats nous l'ont tué.
Je sais qu'il n'est pas mort pour rien, nous serons libres demain.
Mais demain, il va falloir se lever.
Je sais bien, il faut planter le café.
Maurice Dulac et Marianne Mille, dis à ton fils. Alors, il y avait Irène qui a mis son répondeur, donc je vais lire la question parce que vous allez pouvoir répondre justement. Irène disait, je voudrais savoir si ça se guérit et comment vivre avec cette personne avec qui je vis, entre parenthèses. Alors oui, lorsqu'une personne, lorsqu'un pervers narcissique jette son dévolu sur vous, que vous vivez avec lui, comment faire parce que ça peut répondre à beaucoup de questions d'auditeurs.
Ouais. J'ai envie de dire deux choses.
Oui.
Alors, comment vivre avec cette personne? Si ça fait longtemps, je pense que cette personne qui vit avec un pervers narcissique aurait sûrement déjà fait une dépression.
D'accord.
Parce que...
On résiste pas.
Hein. Donc, voilà. C'est déjà, ça, si on vit longtemps, on va voir que faire du côté de la victime.
Oui.
Mais si on vit longtemps avec un pervers narcissique, ça veut dire que sans doute c'est pas un pervers narcissique.
Oui.
Sinon, ça, il y a un moment, ça va plus, quoi. Oui. C'est plus tenable.
C'est plus tenable. Hein? Mais par exemple, est-ce que le dévolu peut être sur une personne à tendance dépressive déjà?
Parce que alors, au départ. Oui, ça peut arriver. Mais on a vu qu'il fallait quand même qu'il y ait l'occasion
l'entourage.
Et que la personne soit un peu en avant. Ce que le pervers narcissique supporte pas. Alors, il peut s'attaquer à des personnes femmes, mais un peu exposées quand même.
Ah, exposées, oui, d'accord. Hein? Oui.
Parce que ça lui donne une plus grande valeur.
Ça lui fait de l'ombre, comme on dit.
Hein? Après, alors la question, est-ce que ça se guérit? On pourrait dire le premier problème, c'est que ce type de personnalité ne viennent pas beaucoup en thérapie, justement parce qu'ils ne ressentent pas de culpabilité, qu'ils n'ont pas conscience de leur acte, de leur attitude. Du coup, ce ne sont pas des personnes qu'on voit beaucoup. Après, on peut les voir quand il y a un effondrement, par exemple, vraiment quand ça va mal.
Quand
le mécanisme de défense tient plus, mais à ce moment-là, souvent, c'est l'effondrement. Ou alors, quand la personne commence à souffrir vraiment trop. Alors là, c'est des thérapies extrêmement longues. D'abord, c'est de l'analyse plus que de la thérapie et c'est long.
Oui. Hein? Mmh. Ça peut permettre là une sortie.
Voilà, mais qui demande énormément de temps parce qu'il faut que la personne prenne conscience de ses mécanismes de défense. Ça prend du temps.
Mmh.
Alors, peut-être ce qui est intéressant, c'est de regarder du côté des personnes qui subissent plutôt. Alors, on avait vu que le pervers narcissique, il a besoin d'une proie.
Oui.
Même si elle est involontaire, pour que le mécanisme puisse fonctionner. Alors le plus sûr moyen, finalement, c'est de ne pas être une proie, Et donc de ne pas laisser prise à la projection, oui, ni à la parole du pervers. Parce que sans victime, finalement, il sera tombé, il ira chercher ailleurs. Alors ça, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on n'en connaît pas les mécanismes.
Oui.
Par exemple, un analyste ou un psychothérapeute qui tombe sur un client ou un patient qui serait pervers narcissique, il va en repérer les mécanismes et il ne va pas être pris au piège des mécanismes.
D'accord.
Mais quand on ne les connaît pas, c'est beaucoup plus difficile.
Oui.
Mais en tout cas, de ne pas laisser de prise aux paroles et aux mécanismes de projection, c'est le meilleur moyen.
D'accord.
La seconde solution, ça consiste à parler, à dire à l'entourage, quand c'est dans la famille, à dire à la famille, quand c'est au travail, de dire aux collègues. Et la plupart du temps, une fois que le pervers narcissique est démasqué, il va ailleurs.
Ah oui, il supporte pas, il n'y a plus de prise.
Voilà, il n'y a plus de prise, il ne peut plus agir dans l'ombre, il ne peut plus se valoriser non plus au détriment de l'autre, puisque tout le monde est au courant, et donc il va aller ailleurs. Donc, voilà, dire à l'entourage qu'est-ce qui se passe. Alors ça, souvent, les personnes victimes ont du mal, d'abord parce qu'elles sentent très dévalorisées, donc elles sont plutôt dans la honte et dans la culpabilité, ont du mal à parler de ce qui se passe, et elles vont plutôt s'isoler que d'aller vers les autres pour en parler. Mais je crois que c'est important de leur dire, plutôt que
de s'isoler,
il faut en parler pour régler le problème, et il se réglera beaucoup plus facilement. Elles ont souvent le sentiment que le pervers narcissique l'isole des autres, ce qui est en partie vrai. Mais elles participent à cet isolement justement à cause de leurs sentiments. C'est-à-dire que le pervers narcissique les isole des autres parce qu'elles-mêmes s'isolent.
Elles-mêmes s'isolent, oui.
Voilà. Et que si elles allaient dire à l'entourage... elles auraient des alliés. Oui. Et ce serait le pervers narcissique qui s'en irait.
D'accord.
Donc ça, c'est la deuxième solution. Quand ça ne marche pas, la troisième solution, c'est la fuite. Et parfois, c'est raisonnable. Il vaut mieux fuir plutôt que de subir sans arrêt les attaques du pervers narcissique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours possible, par exemple, au travail, de fuir. Mais là, au travail, je crois que c'est vraiment la deuxième solution de dire, de dénoncer ce qui se passe. Et puis, quand c'est pas au travail, que c'est une relation amicale, par exemple, faut la fuir et couper la relation. Et puis, quand la personne n'a pas pu échapper d'une façon ou d'une autre, très souvent, il sera indispensable d'entreprendre une thérapie. D'abord pour se reconstruire et retrouver une bonne image de soi, parce que finalement le résultat, c'est que la personne a une image d'elle-même qui finit par être très dégradée. Donc il y a toute cette image d'elle-même qui est à reconstruire, et ça, en thérapie, c'est vraiment un travail de thérapie. Et puis avec la thérapie aussi, ça l'aidera à comprendre tout ce qui s'est passé et à pas retomber dans le piège.
Voilà, merci Pascal Parinet. Alors Françoise, je ne sais pas, on n'aura pas forcément le temps, je vais lire sa question. Peut-être qu'elle interviendra, mais on est à très peu de temps, donc le temps qu'elle expose, ça sera difficile que vous répondiez. Elle nous dit, c'est sa petite fille qui vit tout ce que vous décrivez. C'est exactement cela, et c'est elle donc qui est la victime. Elle est allée trouver les gendarmes. Elle dit « J'ai peur que lui, par sa violence, lui fasse du mal. » Quoi.
Ouais. Alors normalement, voilà, s'il y a une plainte, normalement, il devrait se retirer.
Hein. Lui, se devrait se retirer.
Voilà, il va partir, il va s'éloigner, et puis il va rompre avec sa... Il devrait, en principe, rompre avec sa petite fille et trouver quelqu'un d'autre.
C'est lui qui va fuir le danger pour lui.
Voilà.
Oui, si les gendarmes sont prévus.
Voilà, parce que y a un risque narcissique important.
Oui.
Pour lui, or, son besoin, c'est justement de se valoriser narcissiquement. Mm-hmm. Donc, il ne prendra pas, en principe, si c'est vraiment un pervers narcissique, il ne va pas prendre le risque d'être humilié, parce que c'est tout à fait l'inverse de ce dont il se défend.
Ah oui, oui.
Hein? Donc, voilà.
Oui.
Maintenant, peut-être sa petite fille, elle peut se faire aider aussi, parce que apparemment, ce que j'entends, c'est qu'elle semblerait être plutôt dans une situation de violence. Peut-être conjugale, je sais pas, enfin c'est pas précisé,
non,
mais
c'est pas précisé,
voilà.
On n'a pas
en
le
tout
temps.
Cas, de une situation où la grand-mère a peur d'une violence, faut qu'elle se fasse aider, elle, pour sortir de cette situation.
La petite fille
et trouver des ressources. Alors, elle a été, voilà, elle a posé un acte important d'aller voir les gendarmes, ce qui permet en principe de mettre fin aux agissements.
Il
ne faut pas hésiter d'y retourner si...
la protection de la police.
Et de les appeler en urgence en cas de besoin. Et puis de se faire aider pour pouvoir trouver la bonne distance et se reconstruire.
Et peut-être si elle peut s'éloigner.
S'éloigner, oui. Aujourd'hui, il y a, alors je ne sais pas...
La protection de la femme, voilà. Les femmes battues, ou je ne sais pas, il y a des associations.
Il y a tout un tas d'associations pour l'aider.
Voilà, merci. Voilà, pardon Françoise de ne pas avoir pu vous prendre, mais on arrive à la fin de l'émission. Il y avait Marine qui nous disait qu'elle vous remerciait pour l'explication très éclairante, car cela peut rendre attentif vis-à-vis de l'autre qu'on rencontre. Enfin, quand il y a...
J'ai envie de dire dans les deux sens, c'est-à-dire quand il y a vraiment une perversion narcissique, d'être très attentif et de s'en éloigner au plus vite.
Oui.
Mais aussi de ne pas voir tout comme une perversion narcissique.
Bien sûr. Alors elle dit, ces gens-là ne sont pas encadrés, soignés, comment cela se fait-il? Ces gens sont des dangers et ils sont dans le monde. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas encadrés et soignés parce qu'ils échappent.
Qu'ils ne vont pas avoir thérapeute pour se faire soigner, puisqu'ils n'ont pas conscience de leur problématique.
Merci Pascal Parinet. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous tous. Merci également à Marie-Françoise qui vous accueillait au standard et à Paul qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit plusieurs invités. Mireille Akwala, pasteur et professeur de culture biblique. Patrice Aubert, président de l'association La Fontaine des Religions et auteur dramatique. Ousmane Timera, responsable du centre culturel Hymne Kaldoun. Et Raled Roumeau, auteur, romancier, poète, directeur artistique du groupe Ouajd, membre de l'association Le Gaïc. Le thème de la soirée, culture, religion et foi. Voilà, très très bonne nuit à tous. À demain, peut-être le temps de donner le téléphone très rapidement avant la fin.
Oui, alors c'est le 06 60 15 79 60. 06 60 15 79 60.
Voilà, si vous avez besoin d'être éclairé et d'une situation particulière. Très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.